La planète mise en danger par notre alimentation. Les experts internationaux du GIEC tirent la sonnette d'alarme. Il est temps de changer nos habitudes alimentaires en profondeur. Moins de gaspillage, plus de fruits et légumes et moins de viande. Décryptage dans ce journal. Notre invité pour en parler, Cécile Lebas de l'association Greenpeace. Le recueillement, aujourd'hui à Signes, en hommage au maire renversé par une camionnette de BTP avant-hier. Acte d'incivilité à répétition. Le Sénat lance une grande consultation auprès des élus. Nous verrons ce qu'il pourrait en ressortir. Le mariage Renault-Fiat peut être relancé à la rentrée. La Pologne qui tente d'éviter la fuite de ses cerveaux via des incitations fiscales. Et les artistes américains qui se mobilisent contre Donald Trump, bouleversés par les fusillades d'El Paso et de Dayton. La météo, c'est Mossad à l'ouest, Jean-Pierre Hameau, je suis déçu.
Oui Frédéric, la couverture nuageuse sera compacte cet après-midi. Du Finistère au Cotentin en passant par les Côtes d'Armor, avec en prime des averses intermittentes et des rafales de vent jusqu'à 50 km/h de secteur sud. En revanche, vous profiterez d'un après-midi ensoleillé dans les autres régions. Et puis côté température, les maximales afficheront des valeurs inférieures aux moyennes de saison le long des côtes de la Manche. Ne prévoyez pas plus de 21 degrés à Brest et 23 à Cherbourg. On attend 27 à 35 degrés dans les autres régions.
Jean-Pierre Hameau. France Inter. Le réchauffement climatique dans notre assiette, avec la publication aujourd'hui du rapport très attendu du GIEC, les experts internationaux sur le climat, le sol de la planète est totalement épuisé par les cultures intensives. Et chaque degré de réchauffement réduit les rendements en blé, en soja et en maïs. Et nous mangeons beaucoup trop de viande. Célia Kigray, le constat du GIEC est sans appel.
Oui, nos terres sont sous pression. Les hommes utilisent déjà plus de 70% des terres émergées sur la planète. Et un quart de cette surface est dégradée. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre augmentent et certaines espèces disparaissent. L'agriculture, l'utilisation des forêts et globalement l'usage des sols représentent un quart des émissions de CO2 dans le monde. Et si on ajoute l'industrie agroalimentaire, ce taux monte à 37%. Ce rapport du GIEC rappelle aussi que le réchauffement de la planète abîme encore plus les sols. Il y a donc une diminution des récoltes dans certaines régions. Et en parallèle, près de 30% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. C'est considérable. Les experts notent que nos habitudes de consommation ont bien changé depuis le début des années 60. La production d'huile végétale et de viande a plus que doublé. Il y a donc un paradoxe entre tout ce gaspillage d'un côté et les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Or, avec une hausse des températures de 1,5 degré, les risques de pénurie d'eau et donc d'instabilité alimentaire vont devenir de plus en plus importants. Les femmes, les enfants et les personnes âgées en seront les premières victimes.
Alors, quelles sont les préconisations du GIEC ?
Alors, le GIEC imagine des scénarios pour mieux utiliser les terres. Le but est de réussir à la fois à nourrir près de 10 milliards d'habitants en 2050, tout en luttant contre l'effet de serre. Pour stocker le CO2, il faut planter des arbres, c'est-à-dire reboiser, réduire la déforestation, limiter la bétonisation des terres. Donc, attention à l'expansion des zones urbaines. En parallèle, les experts insistent sur la réduction du gaspillage et un changement de régime alimentaire indispensable qui permettrait de libérer des millions de kilomètres carrés de terre. Le GIEC en appelle donc aux États pour encourager des régimes plus équilibrés avec davantage de plantes, de céréales, de fruits et légumes, de graines et donc moins de viande et des aliments d'origine animale produits dans des systèmes durables. Bref, un changement radical pour les pays du Nord. Cela suppose une agriculture moins intensive et il faut agir vite, le rapport le dit bien, car retarder le passage à l'action pourrait avoir des effets irréversibles. Hausse des émissions, réchauffement, pénurie d'eau, rendement agricole insuffisant et donc à terme, réelle insécurité alimentaire.
Célia Kigray, le GIEC plaide donc pour des actions à court terme contre la dégradation des sols, gaspillage alimentaire, vous l'avez dit, ou les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Ce rapport est un constat scientifique alarmant, mais c'est aussi un formidable appel à l'action, estime le député écologiste Mathieu Orphelin. Pour le Secours Populaire, il n'est pas nécessaire de produire plus, puisqu'un tiers de la nourriture est gaspillée. Pour Valérie Masson Delmotte, climatologue et coprésidente du groupe de travail du GIEC, il ne s'agit pas de forcer la population à changer ses habitudes alimentaires, mais bien de l'accompagner sur une prise de conscience.
Nous ne préconisons pas en fait le choix que les gens doivent faire de ce qu'ils mettent dans leur assiette, mais nous montrons qu'on peut en fait avoir une alimentation qui soit nutritive et saine et qui permet de réduire la pression sur les terres, de même que les émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, quand on compare les différents types d'alimentation, par exemple la viande de bœuf, la viande d'agneau ou de mouton, les produits laitiers ont une empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être plus élevée que d'autres formes d'alimentation, par exemple des céréales complètes, des fruits, des légumes, etc. Et donc, il y a des des leviers d'action dans tous les sens qui sont dans les mains en fait des agriculteurs en termes de baisse de l'intensité carbone des produits qu'ils commercialisent, mais aussi du côté des consommateurs. On a dans le monde 821 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim et on a 2 milliards de personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité. Donc on voit bien qu'on a un système alimentaire mondial qui n'est pas soutenable et qui pose des enjeux de santé publique.
Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail du GIEC, invitée de ce journal, Cécile Lebas de l'association Greenpeace.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chargée de la campagne sur les forêts au sein de l'ONG. D'abord, votre réaction sur ce constat alarmant ?
Alors, le rapport du GIEC, vous l'avez dit, il se focalise sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Et le constat du GIEC, il est vraiment implacable. Il faut de toute urgence radicalement transformer notre modèle agricole et notre modèle alimentaire. Il faut aussi réduire notre consommation et notre production de viande et de produits laitiers si on veut lutter contre le changement climatique.
Manger moins de viande, boire moins de lait, c'est la solution ?
Ça fait partie de la solution, parce qu'aujourd'hui, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument réduire la consommation et la production de viande et de produits laitiers, en particulier dans les pays développés, pour que les pays en développement puissent avoir accès à un régime alimentaire qui soit sain et qui soit équilibré.
Mais comment fait-on pour encourager plus de régimes avec plus de céréales et limiter notamment la déforestation? Il faut aussi limiter la consommation de soja.
Alors, le soja aujourd'hui est majoritairement importé pour l'alimentation animale. Il y a 90% à peu près du soja importé en Europe qui est utilisé pour l'alimentation animale. Donc effectivement, pour réduire notre empreinte forêt et l'utilisation de soja en France, il faut réduire notre consommation de viande et de produits laitiers.
Célia Quiret.
Est-ce qu'il y a une question aussi concernant les biocarburants? Parce qu'on a l'impression parfois que c'est la solution pour envisager l'ère post-pétrole et en même temps, ces biocarburants contribuent à la déforestation. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que là, le GIEC franchit un pas supplémentaire sur ce sujet?
Oui, le GIEC est très clair. Il faut d'un côté arrêter les combustibles fossiles et de l'autre côté, il faut transformer notre modèle agricole et mettre un terme à la déforestation. Et aujourd'hui, les agrocarburants sont responsables de déforestation, notamment en Asie du Sud-Est par la production d'huile de palme. Donc il faut absolument mettre un terme aux agrocarburants de première génération et protéger les forêts existantes.
Mais mettre un terme, est-ce que c'est si simple ?
Aujourd'hui, rien n'est simple. Il y a énormément d'actions qui sont proposées par le GIEC qui sont extrêmement ambitieuses, mais qui sont urgentes et qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Aujourd'hui, on prend du retard alors que des solutions existent et c'est vers ces solutions qu'il faut se tourner.
Qu'est-ce que vous attendez des États, là, désormais? Des mesures concrètes, rapides?
Alors, il y a une responsabilité des gouvernements qui est extrêmement importante. Il faut que les gouvernements prennent la mesure, effectivement, des recommandations du GIEC et des principales leçons de ce nouveau rapport du GIEC. Il faut d'abord que les gouvernements radicalement transforment notre modèle agricole et notre modèle alimentaire. Donc ça veut dire arrêter le développement des fermes usures, ça veut dire des fermes usines, ça veut dire soutenir l'agroécologie, ça veut dire prendre des mesures par exemple pour développer les menus végétariens dans les cantines. Et les gouvernements doivent aussi mettre un terme à la déforestation. Et pour le gouvernement français, ça veut dire par exemple arrêter les importations de soja ou d'huile de palme qui sont liées à la déforestation. C'est-à-dire que si le gouvernement français aujourd'hui n'a pas la preuve que les importations de soja, que les importations d'huile de palme n'ont pas contribué à la déforestation, alors c'est matières premières ne devraient même pas rentrer en Europe et en France.
Ce n'est pas le premier rapport qui va dans ce sens, mais on n'a pas vu de réelles évolutions au cours de ces dernières années.
Non, aujourd'hui, on continue sur une trajectoire qui est extrêmement mauvaise alors que les chiffres du GIEC sont de pire en pire à chaque rapport. Là, le GIEC estime qu'il y a près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'agriculture et à l'utilisation des sols. Donc il faut absolument revoir notre modèle agricole et protéger les forêts parce qu'aujourd'hui, les forêts, évidemment, via la photosynthèse, séquestrent et stockent du carbone. Et quand les forêts sont dégradées, quand les forêts sont détruites, rasées pour laisser la place à des pâturages, à des champs de soja, etc., eh ben, elles ne peuvent plus séquestrer ce carbone.
Célia ? Oui.
Donc pour lutter contre le changement climatique, il est absolument primordial de protéger nos forêts existantes et de restaurer les forêts qui sont dégradées, qui sont abîmées par l'homme.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction avec la signature de certains traités commerciaux? Je pense par exemple au Mercosur qui prévoit d'importer davantage de viande des pays d'Amérique du Sud. Est-ce que les États doivent tenir compte du rapport du GIEC pour peut-être faire évoluer leur position là-dessus?
Exactement, parce qu'aujourd'hui, le Mercosur va permettre d'accroître les importations de bœuf en Europe, alors même que le bœuf est la principale cause de déforestation en Amazonie brésilienne et est une des principales causes de déforestation dans d'autres écosystèmes en Amérique du Sud, comme le Chaco ou comme le Cerrado. Donc effectivement, ces accords de libre-échange sont extrêmement inquiétants et sont complètement contradictoires avec les objectifs climatiques.
Merci Cécile Lebas de l'association Greenpeace donc sur ce rapport très alarmant du GIEC. Il est 13h09 sur France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Beniada.
L'hommage au maire de Signes, une minute de silence sera observée cet après-midi à 16h dans le centre de ce petit village du Var, près de Toulon. Jean-Michel, 76 ans, sera enterré demain en présence de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Le chauffeur de la camionnette de BTP qui l'a renversé a été mis en examen hier pour homicide involontaire. Ce décès a provoqué une vague d'indignation dans la classe politique face aux incivilités à répétition dont sont victimes les élus locaux. Le Sénat a décidé de prendre les choses en main et va lancer une grande consultation de tous les maires de France. Une lettre adressée aux élus dont vous nous dévoilez les grandes lignes, Karine Bécard.
Oui, une question principale sera posée à tous les maires de France. Elle est très simple et très directe. Avez-vous déjà subi ce que vous pourriez vous qualifier d'agression? L'objectif, bien sûr, c'est de libérer la parole des élus, c'est de les pousser à raconter ce qui les inquiète ou ce qui leur fait peur désormais. Alors, il y aura également un certain nombre de sous-questions pour préciser l'agression, est-ce qu'elle a été verbale, est-ce qu'elle a été physique, est-ce qu'elle a eu lieu dans l'exercice des fonctions ou au contraire dans un cadre privé? Toutes ces réponses devront permettre de constituer une échelle, une graduation des violences qui sont subies aujourd'hui. Tout cela pourquoi? Pour élaborer un plan d'action avec la création éventuellement de nouveaux outils législatifs, voire financiers. Est-ce qu'il faudra par exemple aussi renforcer l'arsenal pénal en fonction des courriers renvoyés? Tout cela sera évidemment étudié. En tout cas pour l'instant, cette lettre est en cours de finalisation. C'est le Sénat, vous l'avez indiqué, qui s'en est occupé. Elle sera soumise pour validation à l'Association des maires de France en tout début de semaine prochaine avant d'être expédiée dans toutes les municipalités mardi ou mercredi.
Karine Bécard, chef du service politique de France Inter. Trois nouvelles permanences de députés de la majorité vandalisées la nuit dernière dans la Vienne. Il s'agit des permanences de Jacques Savatier, de Nicolas Turquois et de Sacha Houlier. Des murs ont été érigés devant les permanences avec des tags et du fumier. Une action très probablement menée par des membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, selon Sacha Houlier. Au chapitre social, le ciel semble s'assombrir pour Aigle Azur, confronté à d'importantes difficultés financières. La deuxième compagnie française ne peut plus payer ses locations d'avions. Elle est désormais menacée d'être clouée au sol. Bercy tente de gagner du temps pour assurer le retour des vacances d'ici la fin du mois. Le mariage entre Renault et Fiat n'est pas enterré. Deux mois après la fin des discussions dans la presse britannique, le patron de Fiat Chrysler, Mike Manley, affirme que la logique industrielle de cette fusion existe toujours. En échange de son accord pour une telle fusion, Nissan pourrait demander à Renault de baisser sa participation au capital du constructeur automobile. Sauf que le japonais n'est pas vraiment en position de force avec des bénéfices en chute libre. Pour Bernard Julien, spécialiste des questions automobiles, Renault doit profiter de ces mauvais chiffres pour asseoir sa position dans l'alliance.
Renault doit profiter de l'affaiblissement relatif de Nissan pour réaffirmer, sinon sa prééminence, du moins la nécessité de travailler ensemble et de travailler avec un lard qui soit donné plutôt par eux. Si pour courir cette espèce de lièvre hypothétique qu'est la fusion avec Fiat Chrysler, on se dégarnissait du côté de la capacité d'influer sur Nissan, on aurait un scénario qui me paraît assez catastrophique au regard des 20 ans d'histoire de l'alliance Renault-Nissan qui, effectivement, n'ont pas été 20 années faciles, mais qui ont été 20 années qui ont fini par permettre à l'un et à l'autre de dégager des synergies qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus solides et pérennes que celles qu'on trouverait hypothétiquement avec Fiat Chrysler, avec Fiat qui est en fort mauvaise posture, Chrysler qui reste très américain et qui de surcroît est affaibli dans deux de ses marques au moins que sont Chrysler et Dodge.
Bernard Julien, spécialiste des questions automobiles. Bernard Tapie, toujours combatif dans une tribune au Figaro. L'homme d'affaires en appelle à la Cour de justice de l'Union européenne. Bernard Tapie veut éclaircir certains points du droit européen dans l'affaire Crédit Lyonnais Adidas dans laquelle il a été relaxé. Pour l'homme d'affaires, c'est bien le droit européen de la concurrence qui a été bafoué dans cette saga politico-judiciaire vieille de 20 ans. Un nouvel obstacle pour l'Océan Viking. Le navire de SOS Méditerranée de Médecins Sans Frontières a été refoulé par les autorités maltaises. Il souhaitait ravitailler en carburant à La Valette la nuit dernière. Le navire humanitaire devra donc écourter sa mission au large des côtes libyennes. Le corps d'un soldat israélien retrouvé en Cisjordanie occupé près d'une implantation juive au nord d'Hébron. Ce matin, le militaire de 18 ans aurait été poignardé. Un décès attribué à un sale terroriste, selon les propos du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À Jérusalem, les précisions de Marine Vlahodic, correspondante d'RFI pour France Inter.
Le soldat de 19 ans était porté disparu depuis hier. Son corps a été retrouvé cette nuit à quelques dizaines de mètres seulement de l'école juive où il étudiait, à Migdal Oz, une colonie israélienne située au sud de la Cisjordanie et à proximité d'une route très empruntée par les Palestiniens. Les médias israéliens évoquent une tentative de kidnapping ratée. La jeune recrue aurait été poignardée à mort, puis laissée à l'entrée de la colonie. Et rien ne permet d'affirmer à ce stade s'il s'agit de l'action d'une cellule ou bien d'un acte isolé selon les forces de sécurité qui mènent depuis ce matin une véritable chasse à l'homme dans les villages palestiniens aux alentours. Une opération pour capturer ce sale terroriste et lui régler son compte, a aussitôt réagi Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est également en campagne pour les législatives de septembre prochain. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
5 jeunes Français interpellés hier en Espagne. Ils sont soupçonnés de viol en groupe sur une Norvégienne de 20 ans dans la station balnéaire de Benidorm. La victime dit avoir rencontré ses agresseurs via les réseaux sociaux. La Pologne veut lutter contre la fuite des cerveaux. Depuis le 1er août dernier, le gouvernement a décidé d'exonérer d'impôts les jeunes salariés qui gagnent moins de 19 900 euros par an. L'objectif de cette mesure, lutter contre le manque de main-d'œuvre et garder les jeunes diplômés sur le marché du travail polonais. À Varsovie, Juliette Jay.
Il devrait être 2 millions à en bénéficier, 18% de salaire en plus à la fin du mois qui n'iront plus au fisc. Michael Okun, 25 ans, travaille dans une compagnie internationale. Il reconnaît que ce complément de revenu n'est pas négligeable.
Même si je gagne un peu plus que le salaire moyen en Pologne, je ne peux presque pas économiser d'argent, car le coût de la vie est très élevé à Varsovie, en particulier pour louer un appartement. Donc oui, c'est une somme importante pour moi.
Important, mais pas suffisant pour le convaincre de faire carrière dans son pays.
Aujourd'hui, je voudrais partir à l'étranger. Les salaires sont plus élevés, la qualité de vie est meilleure et les gens sont plus tolérants. Cette suppression d'impôts ne m'a pas fait changer d'avis.
Pour François Bachwal, sociologue au CNRS, cette mesure est avant tout une stratégie politique du parti nationaliste au pouvoir, le PiS. À quelques mois des élections au Parlement, les membres du gouvernement cherchent à conserver leur électorat et à gagner des voix chez les plus jeunes.
C'est une mesure politique. Ils se posent comme les grands redistributeurs de la richesse nationale que les adversaires et les précédents gouvernements n'ont pas su rendre.
Les jeunes salariés, eux, attendent surtout une amélioration de leur qualité de vie. Plus d'1 700 000 Polonais ont émigré en 15 ans, selon l'OCDE.
La visite très discrète de Donald Trump hier à El Paso et Dayton, endeuillé par deux fusillades au lourd bilan humain, s'il s'est rendu au chevet des rescapés, le président américain a tout fait pour éviter les contestataires. Bouleversée par ces tueries, la chanteuse Lana Del Rey rêve, elle, d'une Amérique sans fusillade et compose une balade que vous avez pu écouter sur le compte Instagram de l'artiste avec un message d'explication, Jacqueline Petrose.
Oui, un texte court où elle explique qu'elle n'est pas et ne veut pas être une femme politique, mais qu'elle a son opinion et que ses tueries l'émeuvent profondément. La chanson s'appelle « Looking for America ». Je recherche toujours ma propre version de l'Amérique, chante Lana Del Rey. Une sans armes, là où le drapeau peut voler librement. C'est juste un rêve que j'avais en tête. Et elle regrette l'époque où nous allions au drive-in et écoutions le blues. Tant de choses auxquelles je réfléchis à deux fois avant de les faire. La chanteuse est très très affectée. One without the gun, where the flag can freely fly. No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide. Just a dream.
Et Jacqueline, ce n'est pas la seule à s'indigner.
Bien sûr, et en tête, Rihanna, qui règle souvent ses comptes sur Twitter avec Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, elle a repris de voler le président américain qui parlait d'actes de lâcheté. Rihanna lui répond, c'est du terrorisme dans un pays où il est plus facile d'acheter un AK-47 que d'avoir un visa. Très vite, beaucoup d'autres ont le rejoint sur Internet. Dwayne Johnson, l'acteur de Fast and Furious, se demande quel leader va intervenir et amener des discussions enfin plus sages et efficaces. Ne devenons jamais inertes face à ces tueries, cela ne devrait jamais être normal, a asséné l'acteur Elijah Wood. D'autres comme Cher s'effraient de cette haine qui va croissante. Julianne Moore, Cardi B, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Alyssa Milano, John Legend demandent instamment que les choses bougent sur la législation des armes à feu. À chaque tuerie, de plus en plus de personnalités du monde culturel s'indignent et s'engagent.
Jacqueline Petrose du service culture de France Inter. La météo du beau temps à peu près partout, sauf sur l'ouest, Jean-Pierre Hameau.
Prévoyez un temps maussade cet après-midi du Finistère aux Côtes d'Armor et jusque vers le Cotentin. La couverture nuageuse sera compacte. Quelques averses se produiront par intermittence. Le vent de sud va souffler jusqu'à 50 km/h. À noter un renforcement du vent en soirée et la nuit prochaine avec l'arrivée d'une perturbation plus active et pluvieuse. Des Pays de Loire à l'Île-de-France et jusque vers le Nord-Pas-de-Calais, le ciel sera souvent nuageux cet après-midi, mais l'ambiance restera lumineuse et partout ailleurs, vous profiterez encore d'un bon ensoleillement. Un mot sur les températures avec des maximales toujours un peu justes pour la saison. Le long des côtes de la Manche, n'attendez pas plus de 22 degrés à Brest, 24 à Cherbourg et 25 à Lille. Ça sera plus chaud ailleurs, prévoyez 27 du côté de Nancy, 28 à Nantes, 29 dans la capitale, 30 à Orléans comme à Clermont-Ferrand, comptez 31 à Lyon, 34 à Bordeaux et la maximale de 35 degrés est attendue à Toulouse, Montauban et Marseille.